Radio Prague, les informations.
Le tribunal demande l'évacuation du ghetto d'Ostrava. Le président de la police évoque dans la presse des pressions du ministère de l'Intérieur. Et puis Tim Robbins va tourner un film sur fond de révolution de velours. Le tribunal du district d'Ostrava Paroba a notifié la demande d'expulsion des habitants du ghetto du quartier de Przedna Draji, essentiellement d'origine rome, et a chargé un juge d'en assurer l'exécution. Ce dernier dispose du temps qu'il souhaite pour étudier la situation et procéder à l'évacuation. Les autorités avaient appelé les habitants du ghetto à quitter leur logement avant samedi dernier. Pour des raisons sanitaires, 25 familles seulement ont accepté d'être relogées, tandis que 140 personnes, dont des enfants, sont restées. Le militant d'origine indienne Kumar Vishwanathan, a déclaré ce jeudi que les membres de l'association Vivre Ensemble, dont il fait partie, souhaitaient se lancer dans la restauration de 4 des logements insalubres. Il a également indiqué que beaucoup de familles concernées étaient déterminées à se battre pour pouvoir rester dans leur logement. Dans une interview au quotidien Pravo ce vendredi, le président de la police tchèque, Petr Lessé, a évoqué des pressions de la part du ministre de l'Intérieur, Jan Kubice, qui selon lui emploierait des méthodes d'extorsion pour le pousser à quitter son poste. Le conflit entre les deux hommes remonte à la nomination du président de la police à son poste à la fin de 2010, alors qu'il avait été soutenu par l'ancien ministre de l'Intérieur, Radek Yon, mais non pas par l'actuel. Lessé a également récemment accusé le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, d'exercer des pressions sur lui dans le cadre des enquêtes pour corruption liées à l'achat douteux de matériel par le ministère de la Défense. Un nouveau sondage de l'agence Meridian donne à l'ancien Premier ministre intérimaire Yann Fischer 34,5% des voix lors de la prochaine élection présidentielle qui doit se dérouler pour la première fois à scrutin direct. Un tel résultat pourrait garantir à Yann Fischer de se retrouver au second tour face à son adversaire. Le sondage note une légère progression de ce dernier, tandis qu'un autre ancien Premier ministre et également candidat, Miloš Zeman, se retrouvait en seconde position avec 14% des intentions de vote. L'économiste tchéco-américain Jan Švejnár, ancien candidat en 2008, obtiendrait 11,5% des voix. L'élection présidentielle se déroulera en janvier 2013. Le président tchèque Václav Klaus a assisté à une messe ce vendredi midi sur Sněžka, le plus haut sommet de la République tchèque, 1602 mètres à la frontière polonaise dans le nord du pays. La messe a été suivie par des centaines de fidèles tchèques et polonais et est un rendez-vous religieux traditionnel le jour de la célébration du saint Vavřinec ou Laurent. En raison des réparations du funiculaire de Sněžka, le chef de l'État tchèque, âgé de 71 ans, a dû grimper une bonne partie du sommet à pied. L'acteur et réalisateur américain Tim Robbins a signé un contrat pour la réalisation du film La Place Venceslas, qui sera entièrement tourné à Prague avec de nombreuses scènes en décor réel. L'intrigue se déroulera au temps de la révolution de velours en Tchécoslovaquie. Il s'agira de l'histoire d'un agent de la CIA et de sa collègue et ennemie de la STB. Il s'agit de l'adaptation d'une histoire du jeune auteur américain Arthur Phillips. Tim Robbins est un acteur respecté pour ses rôles dans des films comme Duo à 3, Les Évadés ou encore Mystic River, pour lequel il obtient même l'Oscar du meilleur second rôle en 2003. Il est plus méconnu en tant que réalisateur et La Place Venceslas constituera son quatrième film derrière la caméra. Le tournage devrait commencer l'année prochaine. On finit par un mot de météo. Samedi, jour de la fête de toutes les Zuzanas, le ciel sera clair sur une bonne partie du pays, malgré de possibles averses passagères. L'est de la Moravie devrait être sous les nuages. Les températures sont stables et varient entre 17 et 21 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information, mais restez avec nous tout de suite, la suite du programme.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Anna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Une actualité d'abord marquée par le deuxième titre olympique de la lanceuse de javelot Barbora Špotáková. Victorieuse à Londres comme à Pékin il y a 4 ans, Barbora Špotáková rejoint dans la légende de l'athlétisme tchèque des noms comme ceux d'Emil Zatopek et de Jan Železný. Rien que ça. Retour sur cette victoire qui fera date dans l'histoire du sport tchèque dans quelques instants. Des Jeux Olympiques, il sera également question dans la seconde moitié de cette émission, durant laquelle on retrouvera comme tous les 15 jours la rubrique, le miroir de la société. Mais il ne sera bien entendu pas seulement question de sport dans ce programme. Nous évoquerons notamment le conflit qui oppose les églises du pays à la social-démocratie dans l'affaire de la restitution des biens confisqués sous le régime communiste. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Comme annoncé en titre, les représentants de trois cultes en République tchèque ne sont pas contents et ils le font savoir. C'est une affiche du Parti social-démocrate tchèque, ČSSD, qui fait polémique. Sur celle-ci, on voit très clairement qu'un sac rempli de billets est tendu vers une main qui, à n'en pas douter, est celle d'un clerc. La légende nous explique que les partis de la coalition gouvernementale de droite, ODS et Top 09, veulent faire cadeau de 134 milliards de dollars, soit plus de 5 milliards d'euros aux églises, en référence à la loi de restitution des biens à 17 cultes en République tchèque. Catholiques, juifs et protestants n'ont pas apprécié ce qu'ils considèrent être, je cite, une campagne de propagande. Plus de détails avec Pierre Maignan.
La loi de restitution des biens aux églises n'en finit pas de faire débat. Celle-ci prévoit la restitution à 17 cultes en République tchèque de 56% des biens qu'ils s'étaient vus expropriés durant la période communiste. Ces églises devraient recevoir en plus une enveloppe de 56 milliards de couronnes, quelques 2 milliards d'euros, en compensation des biens ne pouvant être restitués afin de pouvoir être économiquement indépendantes à l'horizon 2030. La loi, préparée par la coalition gouvernementale de droite, a été adoptée à la Chambre des représentants début juillet. Un vote qui a été maintes fois repoussé. C'est au tour du Sénat de se prononcer, or les sociaux-démocrates y sont majoritaires, et comme les communistes, ils sont opposés à ce texte de loi qu'ils considèrent être un cadeau trop important fait aux églises, dans une période de crise économique qui ne s'y prête pas. Et assez logiquement, une commission sénatoriale conseillait mercredi dernier aux membres du Sénat de rejeter la loi. La campagne d'affichage du Parti social-démocrate n'arrange rien, et c'est plus que ne pouvaient en supporter les représentants des catholiques, des protestants et des juifs de République tchèque. Aussi, la conférence épiscopale tchèque, le conseil de l'église œcuménique et la fédération de la communauté juive ont publié jeudi une déclaration commune dans laquelle ils critiquent vivement la campagne du Parti social-démocrate qui nuirait selon eux au fondement même de la démocratie. Milan Badal est le conseiller de l'archevêque et cardinal Dominique Duka, lequel est également président de la conférence épiscopale tchèque. Il est très remonté contre les sociaux-démocrates.
Ce sont des slogans populistes et tout simplement de la démagogie. Il s'agit de 2/1000 du budget de l'État, donc les dépenses budgétaires ne peuvent pas être menacées, que ce soit les dépenses pour les retraites, les dépenses de santé et ainsi de suite. Le Parti social-démocrate sait bien que ce qu'il affirme est faux.
Même son de cloche du côté du président de la communauté juive de Prague, František Baniai, qui estime que les sociaux-démocrates ont une vision manichéenne de la restitution des biens aux églises.
Cette campagne ne dit rien sur le thème de la restitution. Elle diffuse des positions négatives qui engendrent la jalousie et le sentiment que quelqu'un reçoit plus qu'il ne le devrait. Il n'est pas possible de faire une campagne aussi orientée, aussi négative. Elle ne profite à personne et le registre de l'émotion sur laquelle elle joue aurait besoin d'une approche plus terre à terre.
Les sociaux-démocrates considèrent pour leur part que les représentants de ces trois cultes ont tort de faire l'amalgame entre la question de la liberté de culte, qu'ils ne remettent absolument pas en cause, et la question de la restitution de biens publics, qui mérite selon eux débat. Surtout, ils n'ont pas supporté les allégations du cardinal Dominique Duka, qui assimile la campagne d'affiche du parti de Bohuslav Sobotka à celle antisémite et anticléricale du régime nazi, et ajoute qu'elle serait inspirée par les idéologues rouges de Gottwald, président de la Tchécoslovaquie communiste de 1948 à 1953 et stalinien pratiquant. Lubomír Zaorálek, le vice-président du Parti social-démocrate, a réagi peu après la déclaration commune des églises qu'il n'a visiblement pas du tout appréciée.
Il m'apparaît que M. le cardinal s'est permis quelque chose qui relève au minimum du mauvais goût. Quand il assimile la conduite du Parti social-démocrate à une chose telle que l'argumentation et la propagande du Troisième Reich, cela me touche vraiment. Surtout venant de représentants du culte catholique, dont le rôle pendant la Seconde Guerre mondiale n'est pas clairement établi, cela me semble scandaleux et de très mauvais goût.
L'opposition considère pour sa part que la campagne des sociaux-démocrates s'inscrit dans la lutte préélectorale en vue des élections régionales et sénatoriales d'octobre prochain. Cette passe d'armes traduit sans doute un climat qui n'est pas encore apaisé dans la relation qui lie la religion à l'État, car si les sénateurs mettent leur veto au projet de loi, les députés en seconde lecture ont de fortes chances de l'approuver définitivement.
Émile Zatopek et Jan Železný, les amateurs de sport et d'athlétisme du monde entier connaissent ces noms légendaires. Depuis jeudi, ils peuvent y ajouter celui de Barbora Špotáková. En effet, la Tchèque a fait honneur à son statut de favorite jeudi soir à Londres en conservant son titre de championne olympique du lancer du javelot. Après Émile Zatopek et son entraîneur Jan Železný, Barbora Špotáková devient ainsi la troisième athlète tchèque de l'histoire, au moins double médaillée d'or. Pas de drame, comme à Pékin il y a 4 ans où elle avait remporté le concours à son dernier essai. Pas de date symbolique non plus comme en Chine où elle avait battu sa grande rivale russe et remporté sa première médaille d'or un 21 août, jour du 40e anniversaire de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les chars soviétiques en 1968. Rien de tout cela cette fois, une joie plus mesurée aussi peut-être et une euphorie plus retenue. La meilleure de la saison, celle que tout le monde attendait, celle que tout le monde au pays voyait tout en haut du podium, a gagné le concours qui lui était plus ou moins promis, un concours olympique qui était devenu pour elle une obsession. En tête dès son premier lancer à 66,90 m, Barbora Špotáková est restée jusqu'au bout, s'améliorant même à son quatrième essai à 69,55 m et ne laissant la place à aucun hasard. Médaillées d'argent et de bronze, les Allemands de Christina Oberkföll et Linda Stahl sont restés loin derrière avec respectivement 65,16 m et 64,91 m. Désormais double championne olympique, la Tchèque avait pourtant presque du mal à croire à ce qu'elle venait de réaliser, comme elle le confier à la sortie de la piste.
C'est presque dingue. Je dois avouer que l'idée m'avait déjà traversé l'esprit pendant la journée, mais je me suis efforcée de la chasser de ma tête. Je ne voulais pas penser à ça pour que cela ne me porte pas malheur. Vous savez bien que les sportifs sont superstitieux. Mais je ne croyais pas que cela serait aussi simple. Je pensais que les autres filles en seraient plus loin. C'est donc un peu une surprise pour moi.
C'est bien connu, quel que soit le sport, conserver un titre, qui plus est au plus haut niveau, est souvent bien plus ardu que de le conquérir. Pourtant, le déroulement du concours londonien, comparé à celui de Pékin, pourrait faire penser le contraire, tant Barbora Špotáková, jamais vraiment inquiétée par ses adversaires, a été maître de son sujet. C'est d'ailleurs ce que concédait elle-même la nouvelle héroïne du sport tchèque.
Le concours en lui-même a certainement été plus simple. Lorsque vous arrivez au stade, que vous lancez loin dès votre premier essai et que les autres n'y arrivent pas, tout est forcément plus simple. Mais défendre un titre, qui plus est olympique, est plus difficile dans le sens où les médias et le public attendent de vous une nouvelle victoire. C'est une pression terrible qui dure toute l'année et qui complique la préparation. Vous ne pouvez pas vous préparer dans le calme comme avant une première grande victoire. C'est vraiment compliqué à gérer et parfois même à vivre. Parfois, je me suis demandé quel était le sens de tout cela, si j'allais être capable d'y faire face et de répondre aux attentes. Finalement, le concours, c'est vraiment la dernière chose que vous devez faire. C'est presque une libération, car pour le reste, ce sont des années de travail et de préparation, sans oublier toutes les obligations qu'il y a autour.
Ce deuxième titre olympique rapproche encore un peu plus Barbora Špotáková, également détentrice depuis 2008 du record du monde, de son entraîneur, le légendaire Jan Železný, lui triple champion olympique entre Barcelone en 1992 et Sydney en 2000. La médaille d'or de sa protégée est d'ailleurs sa première en tant qu'entraîneur, ce dont n'est d'ailleurs pas peu fier Jan Železný.
Super, 69,5, prostě vyhrála o třídu.
Super, 69,5 m, c'était vraiment un ton au-dessus des autres. Barbora a démontré qu'elle était bien la meilleure, qu'elle savait répondre présent dans les grands rendez-vous, et c'est ce qui fait d'elle une grande championne. Elle a gagné avec plus de 4 mètres d'avance sur la deuxième, c'est vraiment une sacrée différence.
Jan Železný et avec lui tous les amateurs tchèques de sport espèrent désormais que Barbora Špotáková sera imitée dans sa conquête d'or olympique par Vítězslav Veselý, un autre athlète qui l'entraîne et qui figure également parmi les favoris du concours du lancer du javelot masculin qui se tiendra samedi soir. Voilà, c'est donc la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la seconde partie de notre programme. Une seconde partie qui, comme tous les 15 jours, est consacrée à la rubrique « Le miroir de la société ». L'ensemble de la presse tchèque a évoqué cette semaine les inondations dévastatrices qui ont touché, il y a 10 ans, la République tchèque. Nous allons évoquer cet événement à travers quelques extraits tirés des nombreux articles qui y ont été consacrés et ont saisi l'occasion pour s'interroger également sur d'autres risques naturels qui nous menacent dans le futur. La presse, qui a vécu au cours des 15 derniers jours à l'heure des Jeux Olympiques de Londres, a prêté toute son attention non seulement à leurs principaux et célèbres protagonistes, mais aussi à ceux qui ne se sont pas imposés sur le devant de la scène sportive et qui méritent pourtant d'être remarqués.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
La vague d'inondations qui a frappé le pays en août de 2002 a noyé sous les eaux plus d'un tiers du territoire tchèque et fait 17 victimes. Les crues ont eu des effets catastrophiques à Prague aussi. Un des derniers numéros du quotidien Metro, qui est distribué gratuitement dans la capitale, signale à ce sujet.
La crue qui a frappé Prague a été sans précédent dans l'histoire moderne. Ceci dit, dans la longue histoire de la ville, elle n'a été ni la première, ne sera probablement ni la dernière. Chacune des crues précédentes avait sa spécificité. Voilà pourquoi il serait très difficile de les comparer.
Selon les historiens auxquels le journal donne la parole et qui se réfèrent aux chroniques, on peut cependant comparer les inondations de 2002 avec celles de 1432, lors de laquelle les eaux ont submergé le centre-ville de Prague jusqu'à la place de la vieille ville. C'était l'époque où le pays était dévasté par les guerres hussites et souffrait de sécheresse et de famine.
Le journal rappelle également que la crue de 1342 est celle qui a démoli le pont Judith, l'unique pont de Prague existant à l'époque, et de souligner que les inondations faisaient à l'époque partie intégrante de la ville.
Dans l'édition du journal Lidové noviny de ce mercredi, Ivan Obrusnik, expert en prévention de catastrophes, place le souvenir des inondations d'il y a 10 ans dans un contexte plus large, s'interrogeant sur la manière dont le pays est préparé désormais à affronter de tels événements. Il écrit.
Nous sommes assez bien préparés à des inondations dues aux crues des grands fleuves, mais cela ne suffit pas. L'important est de prévenir les inondations à caractère local, qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus dangereuses. Le nombre de catastrophes naturelles en rapport avec le changement climatique ayant tendance à augmenter, la protection anti-inondation doit faire partie des mesures d'adaptation. Hélas, ces mesures ne sont pas toujours suffisamment mises en œuvre.
Plus loin, l'auteur de l'article insiste sur les tendances qui existent dans le monde et au sein de l'Union européenne et que la République tchèque devrait suivre plus activement. Selon lui, le gouvernement dispose de fonds pour faire face aux dégâts causés par les inondations, mais il n'a pas de programme intégré et coordonné concernant l'ensemble des régions et des secteurs en vue de prévenir les futures catastrophes. À ce sujet, il signale.
On devrait être mieux préparé à la sécheresse, car celle-ci peut causer des dégâts aussi importants que ceux causés par les inondations.
Les risques de sécheresse, voilà un thème qui est aussi développé dans un article publié dans l'édition de ce jeudi du quotidien Mladá Frontárnes et qui se penche sur une analyse du climat au cours des 50 dernières années réalisée par 5 observatoires scientifiques du pays. Celle-ci prévoit pour la République tchèque, au cours des prochaines décennies, des extrêmes météorologiques. Jan Pretel de l'Institut hydrométéorologique précise.
On peut s'attendre à un basculement vers des déséquilibres climatiques qui se traduiront par l'alternance d'épisodes de rude sécheresse et de pluies torrentielles, ainsi que par des inondations locales. C'est d'ailleurs ce qui se passe déjà dans divers endroits du pays.
L'article constate également que les scientifiques de l'Institut de la production végétale de Prague s'emploient d'ores et déjà à cultiver des plantes agricoles dites « plastiques » qui resteraient rentables même dans des conditions climatiques difficiles, comme celles annoncées au cours des prochaines années. Ce sont celles qui résisteraient aux deux extrêmes que sont la sécheresse et les pluies. Les chercheurs sont unanimes. Ces choses-là doivent être mises en place avec une certaine avance.
Il va de soi que les Jeux olympiques d'été de Londres ont prédominé cette semaine, non seulement dans les pages sportives, mais aussi dans l'ensemble des journaux. Au fil des jours, on a pu voir jusque sur les unes les photos des médaillés, que les médailles soient d'or, d'argent ou de bronze. Mais les médias ont aussi retenu certaines performances et certains récits moins spectaculaires qui méritent pourtant d'être remarqués.
L'institutrice tchèque l'a emportée à Londres sur elle-même et sur son âge, a titré par exemple un article publié sur le serveur Aktualnia.cz revenant sur la participation de l'athlète tchèque Ivana Sekirova, 41 ans, au marathon femme de dimanche dernier. Il a écrit.
Athlète amateur de la ville de Sokolov, elle s'est classée en 67e position. Elle peut cependant être considérée comme une gagnante. Son histoire est en effet incroyable. Institutrice, elle ne pouvait s'entraîner que le soir, car pendant la journée, elle travaillait à plein temps à l'école et s'occupait de sa fille de 12 ans.
Le marathon olympique de Londres a été le deuxième marathon, après celui de Rotterdam, en avril dernier, auquel Ivana Sekirova a participé. Elle a pourtant marqué un bien meilleur temps qu'elle n'aurait osé espérer. 2h37min14s pour elle. C'était le moment d'une beauté absolue, l'accomplissement d'un véritable rêve olympique.
Un autre athlète tchèque mérite des applaudissements, en dépit du fait qu'il ne se soit pas classé à Londres aux côtés des gagnants. C'est, selon le quotidien économique Gospodarské noviny, le décathlonien tchèque Roman Šebrle.
Lauréat de 2 médailles olympiques, d'or à Athènes et d'argent à Sydney, champion du monde 2007, il avait été contraint mercredi à abandonner les épreuves dès leur commencement à cause d'une blessure au talon. Depuis, l'opinion publique est partagée, les uns reprochant à cet athlète de 37 ans de ne pas avoir cédé à temps sa place à un athlète tchèque plus jeune, Adam Helselet, d'autres lui manifestant leur soutien. Le commentaire de Jiří Šídlo est toutefois univoque.
En ce moment, on ne devrait pas faire autre chose que d'accompagner Roman Šebrle par des applaudissements. Il demeurera à tout jamais un des athlètes les plus fantastiques que ce pays ait connu. Outre les médailles qu'il a gagnées, il a été le premier homme à avoir réalisé plus de 9000 poids, son record ayant résisté pendant 11 ans.
Selon l'auteur de cet article, les grandes histoires olympiques se composent non seulement de victoires, mais aussi de départs, il explique.
Quitter l'univers du sport de pointe auquel on a sacrifié toute sa vie passée est une décision terriblement difficile. Roman Šebrle a rêvé de pouvoir participer encore une fois au décathlon olympique. Les héros, comme lui, ont le droit de décider quand et comment ils vont partir.
Et l'auteur de l'article de conclure.
La fin sportive de Roman Šebrle est triste. Il a certainement imaginé et mérité un autre départ. Mais il s'agit d'un départ tout à fait digne. Le droit de le critiquer n'appartient qu'à celui qui est sûr de pouvoir mieux s'acquitter d'un tel défi.
C'est la fin du bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague. À bientôt, ahoy.